Vous avez peur, non? Vous êtes plus radical?
J'en ai peur. C'est-à-dire, il me semble que derrière toutes les argumentations techniques du monde, il y a une question préjudicielle, c'est une question de principe. Alors, je voudrais partir des sauvetages de 2008-2009, parce qu'il me semble que celui qui se profile va avoir à peu près les mêmes propriétés. À propos de ces sauvetages bancaires, on peut dire, non contradictoirement, deux choses. La première, c'est qu'ils étaient une nécessité impérieuse, et je dirais même vitale. Et la deuxième, c'est que cependant, ils ont été des scandales sans nom. Des scandales sans nom. Alors pourquoi ça a été un scandale? Les gens le savent, alors ils sont un peu plus qu'échauffés, hein, je vous assure. On a sauvé les banques, on a sauvé les finances sans la moindre contrepartie, pas le plus petit commencement de réglementation de l'activité financière ou de transformation des structures bancaires. Donc, si vous me passez l'expression, le corps social en a gros. Mais pour autant, il était une nécessité impérieuse de les sauver. Pour une raison extrêmement simple, c'est que il faut que les gens essayent de se figurer l'ampleur des dévastations économiques et sociales qui suivent de la matérialisation d'un risque systémique. Ceci est dans le cadre de cette hypothèse, hein, je me situe, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. C'est-à-dire l'effondrement total de toutes les banques. Les transactions les plus élémentaires deviennent impossibles. Je veux dire, aller acheter son pain à la boulangerie, ça ne marche plus. Tout simplement parce que retirer de l'argent distributeur à billets, ça ne marche pas. Faire un chèque, ça ne marche pas. Une carte bleue, ça ne marche pas. Vous avez les piécettes dans la poche, vous ne mène pas loin. Hein. Vous tenez 4-5 jours en forçant plutôt sur les patates. Et après, c'est retour au jardin potager pour ceux qui en ont un, et pour les autres, c'est retour vers l'état de nature économique.
Ce que vous décrivez là, ça semble une catastrophe.
C'est la catastrophe ultime si les banques ne sont pas sauvées et qu'elles tombent tout ensemble.
Ça pourrait se produire, d'après vous, ça?
Alors, pour moi, si vous voulez, c'est un événement qui est de l'ordre de l'impensable. C'est-à-dire, c'est un chaos social d'une telle ampleur qu'il me semble inconcevable que les États se désintéressent de la chose. Par conséquent, ils sont forcés de venir au secours de la finance. Qu'ils le veuillent ou non. Et c'est exactement là que se noue le drame, si vous voulez. C'est dans cette articulation entre la nécessité impérieuse d'une part et le scandale de l'autre. Le corps social est forcé par pouvoir public interposé de venir au secours des banques, car si les banques calanchent, c'est le corps social qui calanche dans la semaine qui suit. Et forcément, les intérêts matériels de la population sont si intimement liés à la structure bancaire qu'il est impossible de la laisser crever. Et vous voyez donc là où est le problème, c'est que de par leur position très particulière dans la structure sociale du capitalisme, les banques sont les dépositaires de fait de deux biens publics vitaux pour une société marchande. Vitaux. Le premier, c'est les encaisses monétaires de la population, les dépôts, les épargnes. C'est-à-dire, si toutes les banques tombent, ceci s'évapore dans l'instant. Et ce n'est pas la peine de se gargariser avec le fonds de garantie des dépôts. Hein. Ça va si une banque ou deux tombe, si la totalité s'écroule, le fonds saute comme un bouffon de champagne. Et le deuxième bien public vital, c'est l'intégrité du système des paiements. Et c'est parce que les banques ont capté ces biens publics qu'elles peuvent contraindre l'État, les corps sociaux à leur venir en aide.
C'est quoi l'intégrité du système des paiements?
C'est le fait que les banques sont les teneurs de compte, qu'elles les mouvements, qu'elles les débitent, qu'elles les crédits, donc elles sont
les garantissent.
C'est pas qu'elles les garantissent, c'est qu'elles opèrent très concrètement et très basiquement les transactions élémentaires.
La gestion des moyens de paiement.
Exactement. Bon, alors, si vous voulez, là, il y a une situation de fait que les économistes appellent dans leur langage plurilatéral moral, mais dont le vrai nom est prise d'otage. Et celle-là, elle est colossale. Si vous voulez, chaque fois qu'il y a un mouvement social dans les transports ou le ramassage des ordures, on se bâtit avec la prise d'otage des syndicats. Mais ça, c'est une prise d'otage, mais cosmique. C'est énorme. Personne n'en parle jamais. Donc, la question de principe est la suivante. Derrière la question du sauvetage des banques, et derrière la question des banques tout court, le corps social doit se poser la question de savoir s'il continue de tolérer que ces biens publics vitaux soient ainsi remis à des intérêts privés, et spécialement à des intérêts privés aussi mal éclairés que ceux de la finance, quand elle est mouillée jusqu'aux sourcils dans les marchés de capitaux. Bon, je trouve que poser la question, c'est y répondre. Et si on ne répond pas non, cette obligation de venir à la secours ou à la rescousse des banques se reposera éternellement. D'où ma conclusion, il faut envisager la déprivatisation intégrale du secteur bancaire.
La nationalisation.
Alors, la nationalisation est la première et la plus accessible des formes de la déprivatisation, ce qui est une réelle vertu en situation d'urgence. Mais ça n'est pas la seule. Cependant, pour moi, la chose est claire. Il faut envisager la nationalisation et pas une nationalisation crapoteuse, comme on l'a eu en 2008-2009, comme on va l'avoir de nouveau. Partielle, temporaire, sans intention aucune d'exercer le pouvoir, et avec l'idée qu'on sortira comme on pourra.
Frédéric, on a eu des banques publiques qui n'étaient pas très bien gérées non plus.
Mais écoutez, je l'attendais celle-là. Je vous réserve l'objection à l'objection.
D'accord. Hein. Okay.
Donc, nationalisation intégrale et définitive du secteur bancaire.
Mais ça va coûter un argent fou. En 1980, c'est ce qu'ont fait les socialistes en arrivant au pouvoir.
Voilà.
Alors, ils ont pris 51% des actions, ça a coûté énormément d'argent.
C'est la première objection. Ça va coûter un bras et l'État est rincé. Je fais observer au passage que l'État est rincé parce qu'il continue d'éponger les dégâts de la crise de la finance privée qui s'est prolongée en récession, qui s'est prolongée en austérité, etc.
Oui,
etc.
Mais rassurez-vous, les banques ont perdu à peu près la moitié en termes de capitalisation. Ça va coûter moins cher.
C'est exactement là-dessus que je compte.
Oui.
Alors moi j'attends le moment fatidique, c'est-à-dire on va se retaper assez vraisemblablement un moment de risque bancaire géant. Alors on a laissé passer l'opportunité la dernière fois, cette fois-ci il ne faut pas la louper. Si jamais le risque systémique est matérialisé, les banques seront toutes en état technique de faillite, leur valorisation financière tombera à zéro, et c'est à ce prix-là que l'État les ramassera à l'appel au petit balai. Saisie et réquisition de l'intégralité du système bancaire pour zéro euro. Ce qui ne dispense pas après de leur réapporter des moyens financiers, etc., pour les mettre de nouveau en condition d'opérer. Hein. Mais voilà, à mon avis, vers quoi on pourrait se diriger. Alors, à ce moment-là, il y a trois objections, si vous voulez. Il y a celle de Catherine Boschensi qui dit « Ah, mais on a déjà vu la nationalisation bancaire, on a eu Crédit Lyonnais, le statut public des banques n'évite pas le sinistre. » Deuxième objection, le droit sacré de la propriété des actionnaires, mais enfin, si la valeur est tombée à zéro, il n'existe plus. Troisième objection, n'y a-t-il pas un problème du fait que par le truchement d'un pôle public unifié du crédit, à quoi conduit par construction? Absolument. N'y a-t-il pas un problème à ce que l'État soit en définitive et en dernière analyse celui-là seul qui ait la haute main sur le robinet de la liquidité monétaire?
Donc du crédit.
Du crédit. Ça fait en vérité. Ça fait en vérité deux objections très importantes. Je dis qu'aucune n'est insurmontable.